Les informations avec Thomas Cluzel. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Antoine Janton, bonsoir à toutes et à tous. Quand l'exécutif multiplie les initiatives destinées à ancrer davantage son action dans la tendance écologique après l'annonce hier de l'introduction d'une éco-contribution, le gouvernement a présenté ce matin un projet de loi destiné à réduire les déchets et améliorer le recyclage en France. Pas de dîner entre amis, mais un travail classique de représentation mis en cause pour l'organisation de réceptions fastueuses à l'hôtel de Lassay alors qu'il présidait l'Assemblée nationale. Le ministre François de Rugy joue désormais la transparence et garde pour l'heure la confiance d'Emmanuel Macron. Enfin, au centre d'un contentieux entre Londres et Washington depuis la divulgation ce week-end de câbles diplomatiques dans lesquels il juge la présidence américaine inepte, l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington a annoncé aujourd'hui sa démission. Si depuis son élection, Emmanuel Macron n'aura jamais manqué une occasion de convaincre sur la scène internationale qu'il pouvait incarner l'écologie, sans doute restait-il encore au chef de l'État à montrer lui-même l'exemple. Comprenez à faire la démonstration de ce que la Macronie est d'ores et déjà capable de faire en France avant de vouloir sauver la planète tout entière. Et c'est ainsi que ce matin, le gouvernement a présenté un nouveau projet de loi destiné à réduire l'impact croissant de nos déchets sur l'environnement. En clair, lutter contre le gaspillage tout en améliorant le recyclage. Alors, parce qu'il pose au fond les bases d'un système vertueux, ce projet de bon sens fait globalement consensus, reste désormais à connaître dans le détail ses modalités d'application. C'est à ce moment-là seulement que l'on saura si les différents acteurs, des industriels aux collectivités locales, en passant bien sûr par les citoyens, se prononceront favorablement ou non. Car on le voit bien, s'agissant par exemple de la proposition hier du gouvernement d'introduire une éco-contribution sur les billets d'avion, qui là aussi entend faire le lien entre notre prise de conscience du dérèglement climatique et notre modèle de consommation, eh bien les avis sont déjà partagés. Et en particulier de la part de ceux qui jugent que cette taxe sera trop faible pour inciter les gens à privilégier d'autres moyens de transport. Et donc, qu'elle n'a rien à voir finalement avec la lutte contre le changement climatique, mais constitue davantage une recette supplémentaire pour permettre à l'État de financer la rénovation de ses infrastructures. Bruno Gazot est le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Lui juge que c'est un bon début, comprenez toujours mieux que rien. Et surtout, il trouve la réaction courroucée du secteur aérien, comme des transports routiers largement déplacés.
C'est un peu décalé maintenant parce que tout le monde a bien conscience que le changement climatique devient quelque chose d'urgent et qu'il faut adapter nos modes de consommation au changement climatique, c'est-à-dire adopter des modes qui sont moins polluants et intégrer le coût de la pollution et le coût des externalités dans le coût des modes de déplacement. Donc voilà, Air France est un peu à contre-courant, tout comme les routiers, alors que déjà d'autres pays pratiquent ce type de taxation. C'est le cas de l'Allemagne ou de l'Angleterre ou de la Suède. Donc ce serait mieux effectivement que ce soit au niveau européen, mais c'est déjà possible de le faire au niveau de chacun des pays. L'aérien, il continue d'être largement subventionné par les avantages sur la non-TVA sur le kérosène, ce qui est quand même pas admissible au moment où on cherche à s'affranchir des énergies fossiles.
Bruno Gazot, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, joint au téléphone par Véronique Robérotte. Écologie, toujours et encore, Emmanuel Macron recevait cet après-midi les représentants de 6 fonds souverains qui, l'an dernier, ont adopté une charte encourageant les entreprises dans lesquelles ils investissent à intégrer le risque climat. Des fonds qui, pour l'essentiel, tirent leurs ressources de l'exploitation d'hydrocarbures et qui, depuis, ont incité de grands gestionnaires d'actifs à les imiter. En l'occurrence, 8 des plus grands fonds privés mondiaux, dont Goldman Sachs et HSBC, qui devraient donc annoncer à leur tour la prise en compte du climat dans leurs investissements. À l'issue de cette journée largement consacrée donc à la volonté affichée de l'exécutif d'ancrer son action dans la tendance écologique, l'affaire des fastueuses réceptions privées de l'actuel ministre de l'écologie, François de Rugy, avec les moyens de l'Assemblée nationale qu'il présidait alors, sera évidemment venu gâcher quelque peu la fête. Mise en cause dans un article intitulé « La vie de château » sur fonds publics, publié hier sur le site d'investigation Mediapart, le principal intéressé s'est défendu ce matin en disant « assumer totalement ce travail de représentation ». C'était pour du relationnel, pas du privé, a-t-il notamment expliqué, avant de déplorer une présentation tendancieuse des choses. De son côté, la porte-parole du gouvernement a assuré aujourd'hui que le ministre conservait la confiance du président et du premier ministre. Enfin, côté réaction politique, quand le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, raille un écologiste de château dispensant des conseils de vertu et d'exemplarité, la députée et présidente de Génération Écologie, Delphine Bateau, réclame, elle, sa démission. Et pour le reste, Frédéric Cesse, les réactions auront été assez timorées cet après-midi à l'Assemblée.
Ce n'est pas la foule des grands jours ni des grands scandales à l'Assemblée nationale. Bien sûr, les opposants les plus véhéments sont venus protester, comme Hugo Bernalicis de la France Insoumise.
Donc ça va, quoi. S'il veut se payer un repas, il se paye un repas, quoi. Ce genre de cas de figure-là, dans tout un tas de pays européens, des ministres ont sauté pour moins que ça, quoi. Rembourser, oui, ça serait le minimum syndical, s'il a reçu des gens qui n'avaient rien à voir avec sa fonction présidentielle. Après, ça montre une pratique du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, qui est complètement déconnectée de la réalité et des enjeux politiques.
Mais la plupart des députés, de la majorité comme de l'opposition, fuit les micros ou quand il s'arrête, il se montre fort tempéré à l'image de Philippe Gosselin, élu Les Républicains.
Moi je ne suis pas procureur, je ne suis pas chargé de distribuer les bons et les mauvais points. Encore une fois, je me méfie de ces polémiques qui peuvent enfler très très facilement. Vous savez, c'est facile de jeter en pâture le nom de tel ou tel responsable. L'opinion publique est tellement sensible et on doit instruire ce genre d'affaires à charge et à décharge aussi.
Cette pudeur quasi général s'explique peut-être par le flou qui entoure ces fameux frais de représentation. Quel député peut jurer n'avoir jamais invité un proche à dîner? Quel parlementaire peut assurer de ne jamais avoir participé à de coûteuses agapes? Un élu issu de La République En Marche refuse de commenter, puis grommelle en s'éloignant. Tout ça ne va pas améliorer notre image.
Le ministère du Travail a envoyé aujourd'hui aux partenaires sociaux le projet de décret mettant en œuvre la réforme aussi vaste que controversée de l'assurance chômage, décret qui sera examiné le 16 juillet prochain par les partenaires sociaux. Comme annoncé, le nouveau règlement modifie la durée minimale de travail exigée pour ouvrir des droits au chômage, de même que les règles de calcul de l'allocation des personnes ayant travaillé de manière discontinue. Après une dernière charge de la gauche axée sur la grève des urgences, l'Assemblée nationale a donné aujourd'hui son ultime feu vert au projet de loi santé, projet qui prévoit notamment la fin du numerus clausus pour les étudiants en médecine. Le texte porté par Agnès Buzyn devra encore être soumis à un dernier vote au Sénat. Ce sera le 16 juillet, donc, pour être adopté définitivement par le Parlement. Après que l'Assemblée a adopté la semaine dernière en nouvelle lecture le projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame, dont certaines dispositions contestées ont été précisées, en particulier des dérogations à des règles du droit commun, sans toutefois d'ailleurs convaincre les oppositions, eh bien c'était au tour des sénateurs de se prononcer aujourd'hui. Cécile de Kervas-Douai, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes en direct du Sénat, le vote au Sénat qui n'a toujours pas eu lieu. Quoi qu'il en soit, Cécile, on rappellera que ce projet est donc au cœur d'un véritable bras de fer entre, d'un côté, les sénateurs de droite, majoritairement, et de l'autre, le gouvernement.
Oui, alors au début de l'après-midi, lors de la discussion générale, les sénateurs ont d'abord salué les modifications apportées au texte de ce projet de loi lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, c'était la semaine dernière. Ils saluent évidemment le fait que le projet renonce finalement à se passer du code du patrimoine et des règles de l'archéologie, ainsi que de l'encadrement de la publicité pour les monuments historiques. Mais malgré tout, la nouvelle version des députés de l'Assemblée nationale ne fait pas encore l'unanimité ici au Sénat, comme le prouvent les 20 amendements discutés encore aujourd'hui dans une chambre haute clairsemée, il faut le préciser. Ce qui coince, c'est d'abord la question du type de restauration de Notre-Dame. Les sénateurs de droite la veulent à l'identique, c'est-à-dire restituée dans le dernier état visuel connu avant le sinistre, clause que le ministre de la Culture souhaiterait supprimer. La question du parvis de Notre-Dame a également été longuement discutée, mais le ministre a prévenu l'État ne versera pas d'argent pour ce parvis et il rappelle que les dons ne serviront qu'à Notre-Dame exclusivement. Autre point d'achoppement, la question de l'exonération fiscale majorée à 75% pour les dons pour Notre-Dame. Une mesure dénoncée à gauche parce qu'injuste, puisqu'il y a des Français qui ne payent pas d'impôts et qui représentent la moitié de la population, des Français qui en sont donc exclus de cette exonération. Mais surtout, ce qui coince et ce qui est en train d'être discuté, ce sont les dérogations qui restent dans le projet, et notamment celles au code de l'environnement, dont la restauration de Notre-Dame s'exonérerait. Le ministre rappelle qu'il s'agit surtout de gagner du temps, par exemple pour récupérer des pierres de taille. Il ne convainc pas pour autant les sénateurs. Les sénateurs veulent des garanties et ils le disent. Il rappelle que vitesse ne veut pas dire précipitation ni dérogation aux règles et que ce que dit le président de la République n'est pas la loi. Dans tous les cas, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot.
Merci Cécile de Kervas-Douai en direct du Sénat. Depuis 2006, gendarmes et policiers travaillaient ensemble au sein d'une délégation aux victimes pour comptabiliser le nombre de personnes tuées au sein du couple chaque année. Et dans un rapport présenté aujourd'hui, place Beauvau, eh bien le ministère de l'Intérieur a donc rendu public le nombre de morts violentes au sein du couple. Wafia Kenich, bonsoir.
Bonsoir Thomas.
L'an dernier, 149 personnes ont été tuées au sein de leur couple, dont une très grande majorité, 121 très exactement, sont des femmes.
Les victimes, oui, sont effectivement en majorité des femmes. On compte aussi 28 hommes et 21 enfants. Ils ont tous été tués au sein même de leur famille. Dans 80% des cas, le responsable est un homme qui a entre 30 et 49 ans. Il tue à domicile avec une arme, arme blanche ou arme à feu. Et il faut savoir que plus de la moitié des tueurs se suicident ou tentent de le faire après les faits. Les agresseurs ont souvent consommé de l'alcool, des drogues ou des psychotropes au moment du passage à l'acte. En 2018, le Pas-de-Calais, les Bouches-du-Rhône pour la métropole, la Réunion et la Polynésie pour l'Outre-mer sont les départements où ont été tués le plus de personnes au cœur de la cellule familiale. Autre élément important, 54 victimes ont été agressées au moins une fois avant d'être tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Ce qui valide une fois encore l'idée que ces morts pourraient, dans certains cas, être évitées. Enfin, concernant le type de qualification des faits, on compte 111 meurtres, dont 26 avec préméditation. Ces 121 féminicides en 2018 sont donc, dans leur très grande majorité, commis avec une volonté de tuer. En aucun cas, on ne peut alors parler d'accident.
Merci Wafia Kenich. Le courroux de Donald Trump aura finalement eu raison de l'ambassadeur britannique aux États-Unis, lequel a annoncé sa démission aujourd'hui après la fuite de mémos diplomatiques peu flatteurs à l'égard du président américain, ou quand l'ambiance entre Londres et Washington n'est visiblement pas prête de s'améliorer. C'est une correspondance à Londres signée Antoine Gignot.
Il l'écrit noir sur blanc dans sa lettre de démission qui me daroche. Impossible de continuer à travailler aux États-Unis. La situation actuelle, dit-il, m'empêche de remplir mon rôle comme je le souhaiterais. Difficile, effectivement, de continuer à fréquenter les salons de la Maison-Blanche. Donald Trump explique ouvertement qu'il ne veut plus avoir de contact avec l'ambassadeur britannique. Il le considère, ce sont ses mots, comme un type très stupide. C'est un départ regrettable, commente Theresa May. La première ministre continue de soutenir le diplomate et précise qu'il est indispensable que les fonctionnaires puissent donner des conseils francs et complets. Même réaction à gauche. Jeremy Corbyn, le chef de file de l'opposition travailliste, explique qu'il déplore la démission de Kim Darroch. « Je pense, dit-il, qu'il faut le remercier pour son service honorable et de qualité. » En parallèle, les enquêteurs tentent d'identifier la source qui a transmis au Mail on Sunday les rapports confidentiels rédigés par l'ambassadeur. Il pourrait y avoir des poursuites judiciaires, précise le ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt. Il y aura, dit-il, des conséquences graves quand nous trouverons le responsable.
Les sanctions imposées à l'Iran seront bientôt considérablement alourdies, annonce faite aujourd'hui par Donald Trump, le chef de la Maison-Blanche, qui continue d'accuser Téhéran de poursuivre en secret et de longue date son programme d'enrichissement d'uranium. Comme chaque soir, à partir d'aujourd'hui, direction Avignon, à présent, où nous retrouvons Arnaud Laporte, qui tous les jours viendra nous délivrer quelques conseils pour mieux s'y retrouver parmi les 1600 spectacles du OFF, un rendez-vous qui débute donc aujourd'hui avec cette question essentielle. Arnaud, doit-on dire à Avignon ou en Avignon ?
Lorsqu'on arrive dans la Cité des Papes, on a toujours le même problème. Est-on à Avignon ou en Avignon ? Si « en Avignon » a été utilisé par André Gide ou Albert Camus, l'Académie française prône l'usage de « à Avignon ». Le site internet de la ville fait la même recommandation. Ce premier point très sensible réglé, un deuxième problème survient pour le critique festivalier. Si j'ai évidemment préparé mon agenda de spectacle à voir dans le IN, la programmation officielle, comment faire avec le OFF qui propose cette année 1600 spectacles. Certes, sur les 1600, on n'est pas sûr de vouloir aller voir « Scandale et tarte aux pommes », « Les décaféinés lancent une machine »,« Chéris et qui le patron », ou même « Faites l'amour avec un Belge », pourtant à l'affiche du OFF depuis 10 ans. Tous les titres sont véridiques. Alors on s'en remettra, comme chaque année, au bouche à oreille, et on ira sans doute voir comment le jeune metteur en scène suisse Dorian Rossel a adapté le livre de mémoire d'Ingmar Bergman, « Laterna Magica », au Gilgamesh Belleville. On ira aussi au Théâtre de la Manufacture, voir « After the End » de Denis Kelly, mis en scène par un jeune diplômé du conservatoire Antonin Chalon. On recommandera Un garçon d'Italie, mis en scène au Transversal par Mathieu Touzé, un spectacle dans lequel joue Yu Ming-hei, la révélation de la série Netflix osmosis. Enfin, on ne ratera pas l'occasion de voir encore une fois sur scène l'incomparable Denis Lavant qui se confronte à nouveau à Samuel Beckett après Cap au pire. Il retrouve le metteur en scène Jacques Osinski au Théâtre des Halles. Cette fois, ils ont choisi La dernière bande et ce sera mon dernier conseil du jour.
Et on termine avec un mot de météo. Demain, le temps sera davantage couvert dans la moitié nord du pays, tandis que le soleil dominera toujours au sud. Quant aux températures, elles afficheront entre 12 et 23 degrés le matin jusqu'à 34 dans l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Benjamin Ducy à 22h. Vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.